Lizzie présente. Ne t'arrête pas de courir. De Mathieu Palin. Et lu par l'auteur. À ceux qui tombent, et tous les autres, dehors, qui les attendent. 1. Maintenant, je connais ça par cœur. Mais la première fois, j'ai failli rater le parloir. J'avais pris mes dispositions pourtant. Je m'étais couché tôt, j'avais mis un réveil. Seulement, j'avais oublié la voiture. J'ai une bagnole en fin de vie. Un Nissan qui pollue trop, et à la jauge d'essence capricieuse. Même en panne sèche sur la bande d'arrêt d'urgence, elle persiste à indiquer les trois quarts du plein. Alors comme cela m'est arrivé un paquet de fois et que je n'ai prouvé aucun plaisir à poireauter le long d'une nationale en attendant la dépanneuse, j'essaie de lui donner à boire régulièrement. Il était 7h quand j'ai quitté la station-service de la porte de Montreuil. Je m'en souviens parce que le mec à la radio annonçait les titres du journal. Je me suis dit « t'as de la marge ». Puis j'ai vu toutes ces voitures à l'arrêt sur le périphérique, leur feu traçant un fleuve rouge vif dans la nuit. Un accident. J'avais pas le droit d'être en retard. Même d'une minute. Vous ne répondez pas à l'appel, pas de parloir, tant pis pour vous. Il m'a fallu 1h15 pour faire 40 kilomètres. Je me suis garé n'importe comment devant la prison et j'ai couru à l'accueil en espérant y trouver du monde. C'était le cas. Ça sentait le café là-dedans. La télé était branchée sur M6 Boutique. Des filles en brassière faisaient de leur mieux pour nous vendre une ceinture qui donne le ventre plat. Je transpirais. J'ai à peine eu le temps de laisser mon portable au casier que le surveillant a lancé à travers la salle. « Parloir de 8h45 !» On était 16. Des mères, des sœurs, des compagnes et des sacs de linge au bout des doigts. J'étais le seul mec. En randonnion, on a suivi le surveillant jusqu'à une porte blindée. Il nous a fait attendre 1 minute dans le vent, et la porte s'est ouverte. Il faisait chaud à l'intérieur. On s'y engouffrait comme dans un bus en hiver. Il n'y avait rien dans cette salle, à part un portique de sécurité et un tapis roulant à rayon X. Le surveillant nous appelait un par un. Vous sonnez, vous enlevez un truc. Ceinture, collier, paire de bottes. 3 échecs sous le portique et vous rentrez chez vous. Parloir annulé. Ça a été mon tour. Le surveillant a dit « Famille Koulibaly !» Et je me suis avancé, sentant sur moi le regard de ces femmes qui pensaient « Ce petit blanc là, il s'appelle Koulibaly ?» J'ai ôté ma veste. À gauche, il y avait une vitre sans tain que le surveillant a fixée un instant avant de me laisser franchir le tourniquet. Ensuite, il a fallu traverser la cour d'honneur. Les cellules étaient là. J'ai cherché une silhouette à la fenêtre, mais il était trop tôt, ou bien il faisait trop froid. Je n'ai rien vu derrière les barreaux. Tout me semblait très blanc. Sans les murs d'enceinte, les miradors et les rangées de barbelés, on aurait pu croire à un hôpital. Au-dessus de nos têtes, il y avait une immense toile d'araignée. Des câbles anti-aériens, installés après l'évasion de Redouane Faïd, le braqueur. Ses complices avaient découpé la porte à la disqueuse avant de l'extraire du parloir en menaçant tout le monde à la Kalachnikov. Un hélicoptère les attendait. C'était il y a 8 mois. Depuis, Faïd a été repris. Les femmes déposent leur colis à une surveillante derrière un comptoir et on refait l'appel pour recevoir un numéro de cabine. « Koulibaly, il a 24 !» Un surveillant m'ouvre une porte repeinte en mauve, au bout d'un couloir. Et je me retrouve seul devant 3 chaises en plastique et une table bancale. Voilà à quoi ressemble un parloir. Je me place au milieu. En écartant les bras, je touche les murs des deux côtés. Je suis de taille moyenne, 1m74. Et comme je n'ai pas des bras d'orang-outan, je dirais que la pièce fait à peu près ça de large, 1m74. Au mur, il y a un bouton rouge et un hygiaphone. Le bouton rouge, je suppose qu'on appuie dessus quand les choses dégénèrent. quand des petites amies qui n'en peuvent plus d'attendre viennent un jour dire qu'elles n'en peuvent plus, justement, et qu'elles refusent de perdre leur temps. Voilà, c'est la dernière fois. Une claque part, sa gueule, la femme en danger presse le bouton rouge et les surveillants déboulent. Le type est ceinturé, il hurle à la mort dans le couloir. Sa voix chargée d'insultes s'éloigne dans les étages tandis que sa femme hoquette, le souffle court, se disant au fond d'elle « c'est bon, c'est fini ». Je l'ignorais, mais l'établissement venait de vivre une histoire similaire. Alerté par des bruits suspects, les surveillants avaient déclenché l'alarme et trouvé le détenu qui sautait à pieds joints sur la tête de sa compagne. Quand en garde à vue, on lui demanda pourquoi il avait fait ça, il répondit « elle m'a trompé ». La jeune femme, 27 ans, avait été transportée à l'hôpital dans un état grave. Il y a plus de 700 détenus à Réo, sans compter le personnel et les surveillants. Pourtant, c'est comme si j'étais seul dans le bâtiment. Le silence était parfait. J'avais installé une chaise en face de la mienne, à une distance que j'estimais raisonnable pour une discussion, et continuais d'attendre, seul dans cet espace si vide que le regard n'accroche nulle part. J'étais là pour visiter quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je me demandais ce qu'on allait bien pouvoir se dire. Je suppose que ça arrive avant un rendez-vous galant, ce genre de stress. On espère que l'alchimie va prendre, mais on prépare quand même 2 ou 3 sujets de conversation, au cas où. Ça me paraît loin maintenant. Mais à un moment, dans le silence de cette pièce froide, la question m'a violemment percuté. Qu'est-ce que tu fais là ? J'étais tombé sur un article qui commençait ainsi. C'est l'histoire d'un athlète sacré champion de France du 400 mètres qui a choisi de gâcher son talent et sa vie. Toumani Koulibaly, 30 ans, comparaissait à nouveau devant le tribunal correctionnel d'Evry pour une tentative de cambriolage. Le coureur est actuellement en détention pour des faits similaires. J'ignore si c'est parce que ça parlait de sport ou de ce coin de l'Essonne où j'avais grandi, mais ça m'a intéressé. Plus loin dans l'article, le jeune homme était cité à l'audience, demandant à la presse de ne plus écrire sur ses affaires, car le plus âgé de ses 4 enfants avait appris à lire, et ça lui ferait du mal d'apprendre que son père n'est pas seulement un champion, mais aussi un voleur multirécidiviste. Bien sûr, les journalistes s'étaient moqués de lui, et dans Le Parisien, on avait eu droit aux détails de son palmarès judiciaire. 13 condamnations. Que des vols et des cambriolages. J'ai cherché d'autres articles et je suis tombé sur cette info que j'ai eu beaucoup de mal à croire. Le 22 février 2015, quelques heures après avoir remporté le titre de champion de France du 400 mètres, Toumani Koulibaly ne sabre pas le champagne. Il ne fête pas l'événement avec sa femme et ses enfants au restaurant. Non. Il pose sa médaille sur la table de la cuisine, attrape une cagoule et rejoint 4 complices pour cambrioler une boutique de téléphone portable. Sa première incarcération remonte à 2007. On avait 19 ans, en 2007. Je veux dire, lui et moi, puisqu'on a 6 mois d'écart. Je marchais chaque matin de mon immeuble jusqu'à la gare de Ris-Orangis et me tapais 1 heure de RER pour rejoindre la fac, à Paris. Je voulais devenir journaliste. J'avais échoué dans le sport et j'avais pas de plan B. Lui dormait à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, bâtiment D3, à 5 minutes de chez moi. J'ai regardé à nouveau sa photo dans le journal. Il est en tenue de compétition, cuissard et débardeur. Il se mord la lèvre supérieure, fronce les sourcils et regarde loin devant. Il a l'air d'un type inquiet, sur le point d'envisager la fuite. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Toumani Koulibaly, j'étais en immersion à Auxerre, dans un service de la protection judiciaire de la jeunesse, pour un boulot d'enquête qui, je ne le savais pas encore, allait devenir un roman. Mon quotidien consistait à suivre des éducateurs en prise avec des gamins qui ne vont pas bien, des écorchés vifs, qui saignent et lèchent leurs plaies, des gosses en dépression qui se débattent dans leur adolescence en essayant de rester vivants. J'ai passé 6 mois à leur contact. Je n'en suis pas sorti en expert de la délinquance, loin de là. Disons qu'on m'a fait prendre conscience de principes importants, comme de ne pas laisser tomber un jeune qui a passé sa vie à être abandonné. Peut-être ai-je été influencé par cette expérience. Peut-être pas. Toujours est-il qu'après avoir lu tout ce que je pouvais lire sur Toumani Koulibaly, et alors qu'il exprimait très clairement son désir de ne plus avoir affaire à des journalistes, j'ai décidé de lui écrire.